Salut, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste passionnée par l'humain, la nutrition et le sport. Au cours des dernières années, j'ai réalisé à quel point l'alimentation c'est un sujet complexe qui peut parfois flirter avec différentes sphères de la santé humaine, comme la fameuse psychologie. C'est d'ailleurs cette belle complexité qui fait, selon moi, que le sujet est si fascinant. Dans la quatrième saison du balado, je continue d'approfondir différents sujets en lien avec l'alimentation afin de vous aider à comprendre votre corps, mais également à faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Pour ne rien manquer sur la nutrition, si le sujet vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en retrouvant l'identifiant van-nutritionniste. Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 4. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'une collègue nutritionniste pour aborder un sujet bien intéressant et j'oserais même dire controversé. Ouais, donc fidèle à mes habitudes, j'aime beaucoup les sujets controversés et je pense que j'en ai absolument jamais parlé depuis le début de tous les épisodes. Mais probablement que j'ai effleuré le sujet, mais on n'est jamais rentré en profondeur dans ce sujet-là. Donc aujourd'hui, j'ai une nutritionniste experte dans la chirurgie bariatrique. Donc, je suis avec Laurie Blanchet, qui est nutritionniste et qui travaille aussi au sein de l'équipe de Nutri sans chichi. Donc, salut Laurie, ça va bien?
Bien oui, ça va bien. Merci de me recevoir.
Hey, ça me fait plaisir. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour jaser de ce sujet d'intérêt-là. Avant qu'on se lance vraiment dans le sujet, ben, j'ai envie que tu nous dises un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la chirurgie bariatrique. Donc, est-ce que c'est la chirurgie qui t'a trouvé ou toi qui as trouvé la chirurgie? Comment ça s'est orchestré tout ça? Je suis quand même curieuse. Fait que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours.
Oui, parfait. Donc, dans le fond, moi, dès que j'ai gradué de l'Université Laval, j'ai été embauchée à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil, puis sur la rive sud de Montréal. Puis à Longueuil, ils ont déjà l'expertise de chirurgie bariatrique. Puis, dans le fond, c'est plus la chirurgie qui m'a trouvée que pour répondre à ta question. Mais donc, quand il s'est ouvert un poste, dans le fond, en chirurgie bariatrique, je me suis joint à l'équipe. Puis, j'ai beaucoup aimé. Dans le fond, j'avais pas de poste, mais je m'étais un peu promenée partout. Puis, c'était vraiment une équipe qui était vraiment intéressante, beaucoup de multidisciplinarité. Moi, c'est ce que j'aime de travailler à l'hôpital, là, vraiment l'interdisciplinarité. Donc, ça, c'était vraiment une belle équipe pour ça. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis joint à l'équipe dans un but de travailler avec d'autres professionnels.
Mm-hmm. Puis toi, dans le fond, tu me disais avant qu'on débute l'enregistrement là, que tu étais à l'hôpital depuis 2015. Donc, ça fait comme 8 ans, là, toi, que tu accompagnes des gens en chirurgie bariatrique, c'est ça?
Oui. Dans le fond, les premières années, c'était plus en remplacement par-ci, par-là, mm-hmm. mais ça fait quelques années, au moins 4-5 ans que j'ai mon poste là, en chirurgie bariatrique. Puis là, depuis 2 ans aussi, je me suis joint à l'équipe de Nutri sans chichi, donc je vois aussi des clients au privé. Donc, mm-hmm. je vois aussi c'est ma spécialité aussi avec Nutri sans chichi, les cas de chirurgie bariatrique, mais là, un peu partout, dans tous différents centres, même au privé, où il y en a qui sont allés en Turquie avoir la chirurgie, donc je vois un peu de tout. Ouais.
Okay. Bon, ben là, avant qu'on continue, il va falloir que tu me dises pourquoi la Turquie? Est-ce qu'ils sont réputés pour ça ou?
Oui, ben dans le fond, il y a une compagnie québécoise, je pense, qui organise les voyages pour aller là-bas.
Ah, ouais? Ouais. Mais pourquoi pas le faire au Québec? Parce que la liste d'attente est trop longue, genre?
Ouais, donc il y a deux raisons. Les gens, ils se tournent vers le privé parce que les listes d'attente au Québec, c'est trop long. Donc, c'est souvent les gens qui sont très décidés à l'avoir. Tu sais, une fois que la décision est prise, OK, oui, je veux ça. Mm-hmm. Là, ils se font dire, OK, mais il faut attendre 3 ans. Ben là, il y en a qui sont, ah ben non, là, je l'avoue tout de suite. Maintenant que la décision est prise, c'est trop long.
Ouais, mais en fait, on est tous un peu de même, là. Genre, on décide qu'on veut quelque chose, on le veut demain matin.
Amazon livré demain matin, là. Donc, exactement. C'est un peu, on est un peu tellement dans cette mood-là que les gens, ils vont vers ça, la rapidité. Puis, ben, au privé, ben, il y a quelques centres au Québec qui font du privé. Puis quand tu regardes du côté privé, ben là, ça peut sortir là, dans leur recherche, puis c'est moins cher que de le faire au Québec. Donc, okay, c'est vraiment la raison pourquoi ils vont là-bas, dans le fond.
Ah, OK. Intéressant, je savais pas. Puis c'est moins cher, même considérant le voyage en Turquie ou...
Oui.
Mais là, j'imagine que si tu as des problèmes ou quoi que ce soit, tu es un peu pogné avec ça, là.
Ben, dans le fond, ils ont la beauté du système québécois, là. On va pas refuser quelqu'un à l'urgence.
Ouais. Mm-hmm.
Ouais.
OK, bon, intéressant. Donc, l'idée n'est pas de vous suggérer de partir en Turquie, mais plutôt de démystifier un peu tout ce qui est la chirurgie bariatrique, comment ça fonctionne, donc comment ça alimente avant, après. À mon souvenir, ben, de ce que j'en sais, de ce que je perçois du marché, de ce que je reçois comme clientèle aussi, souvent les gens manquent un peu d'accompagnement. Malheureusement, on le sait, comme tout le monde, là, le système est surchargé, donc on voudrait tous pouvoir donner plein, plein, plein de conseils puis accompagner les gens longtemps, mais je pense que ça se fait peu malheureusement. Fait qu'on va commencer par le début. On va commencer par jaser. Je pense que les gens qui nous écoutent assurément savent grosso modo là, c'est quoi la chirurgie bariatrique, que c'est une chirurgie pour perdre du poids, etc. Mais concrètement, il y a différents types d'opérations. Fait que j'aimerais peut-être que tu nous définisses un peu justement, bon, qu'est-ce que la chirurgie bariatrique, c'est quoi les différents types d'opérations, puis c'est quoi qui est rendu le plus populaire, tu sais, en 2023, mais aussi au Québec, je pense, parce que je pense que d'un endroit à l'autre, là, ça peut varier.
Oui, donc dans le fond, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui vise la perte de poids, en gros. On fait des modifications au niveau de l'estomac et ou des intestins, là, du chemin va entreprendre les aliments dans l'intestin. Donc, la plus populaire en ce moment, c'est vraiment la chirurgie gastrectomie verticale ou comme on appelle plus sous son nom anglophone sleeve. Donc, on veut souvent dire la sleeve. Donc ça, c'est une chirurgie juste au niveau de l'estomac. Il n'y a aucune modification au niveau des intestins. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'elle est plus populaire en ce moment. Elle a aussi beaucoup remplacé l'anneau gastrique, qui était très populaire il y a 20-30 ans. Parce que l'anneau gastrique, on venait mettre un anneau autour de l'estomac, mais on changeait rien d'autre, puis on pouvait l'enlever. Donc, les gens allaient beaucoup vers ça parce que c'était réversible. La sleeve, c'est irréversible parce qu'on enlève le deux tiers de l'estomac, puis ce deux tiers d'estomac-là est retiré du corps. Donc, c'est vraiment irréversible. Donc, ton estomac devient vraiment plus petit, environ le tiers de ce qui était avant. Mais vu que le reste, tout est, tu sais, ton estomac encore, à peu près la même forme, il y a rien. Il n'y a aucune partie d'enlever de l'estomac qui avait une fonction. T'sais, on a encore le pylore qui referme l'estomac. C'est vraiment juste on vient enlever du volume.
Fait que ce qui fait en sorte que quand on s'alimente rapidement, on se sent rassasié, en fait, parce que l'estomac est tout petit.
Exactement. Donc, ça vient vraiment amener une restriction alimentaire versus d'autres chirurgies qui vont amener aussi de la malabsorption. La sleeve, il n'y en a pas. Donc, c'est plutôt ce qui est populaire.
Puis ça, au fil du temps, je pense que par exemple, ça peut revenir le volume de l'estomac.
C'est assez rare. Un estomac ne va pas s'agrandir. C'est vraiment un mythe que l'estomac va agrandir. Mais ça reste un muscle. Donc, est-ce qu'il peut s'étirer un peu plus qu'il s'étirait, devenir un peu plus souple, probablement. Mais ça s'agrandit pas, là.
Parce que, tu sais, souvent, mettons, justement, on va avoir des clients qui disent, bon, ben, au début, comme après la chirurgie, je mangeais vraiment pas beaucoup, puis j'étais rassasiée rapidement. Là, après quelques années, ben, plus ça va, plus ils sont capables de manger. Est-ce que c'est justement parce que l'estomac va s'être étiré un petit peu ou c'est parce qu'ils ont eu un autre genre de chirurgie, pas la sleeve?
Il y a un peu des deux dans ce que tu viens de dire. Avec la sleeve, justement, oui, c'est rare que ça va vraiment augmenter le volume, les quantités. Par contre, l'estomac va rester enflé les 6 premiers mois. Donc, des fois, les gens, ils se comparent aux premiers mois. Donc, c'est pas réaliste parce que l'estomac est encore enflé de la chirurgie. Donc, c'est normal qu'on mangeait moins. Donc, vers 6 mois, 1 an, les portions se stabilisent. Puis, normalement, ne devraient pas augmenter tant que ça. Après ça, ben là, on n'a pas encore parlé des autres types de chirurgie, mais quelqu'un qui a eu un bypass, par exemple, lui, il a plus son pylore qui referme la petite pochette gastrique. Donc, c'est un peu un entonnoir, si on veut, là, son estomac. Donc, c'est une petite pochette gastrique. Puis là, whoop, tout de suite, on est venu brancher les intestins. Donc, il n'y a pas rien qui referme cette petite pochette gastrique-là. C'est vraiment comme un entonnoir. Il n'y a pas de porte à la sortie, ça glisse vers les intestins. Donc, ces gens-là, souvent, vont manger un peu plus, vont réussir à manger un peu plus que quelqu'un qui a la sleeve. Puis aussi, ben c'est toute la gestion aussi. On leur demande, on va en reparler plus tard, je pense, là, mais on leur demande de ne pas boire au repas. Mais souvent, avec le temps, c'est des adultes qui vont peut-être revenir, puis ça les fait, ça, ils réussissent à manger plus s'ils boivent plus aussi au repas des fois.
OK. Fait que ben, tu peux peut-être justement poursuivre là, avec les autres types de chirurgie. J'ai dévié un peu, mais ben, tu peux nous
Ben
brièvement.
oui, ben oui. Donc, le bypass, il vient de mentionner. Donc, son nom français, c'est dérivation gastrique en Y de roue, puis bypass en anglais. Celui-là, il va avoir surtout de la restriction comme la sleeve, donc parce qu'on peut faire vraiment une petite pochette gastrique. Par contre, on vient faire une petite pochette gastrique avec le haut de l'estomac, mais tout le reste de l'estomac, il est déconnecté, mais il est encore là. On retire aucune partie du corps dans cette chirurgie-là. Donc, c'est simplement que le reste de l'estomac qu'on a déconnecté, il va servir à sécréter l'acide gastrique, mais qui va s'en aller dans l'intestin plus loin. Donc, il n'y aura plus d'aliments qui vont aller dans cette partie. Donc, dans la petite pochette gastrique, donc on a vraiment moins gros volume, moins d'acidité parce qu'il y a moins d'estomac, mais il n'y a plus le pylore non plus, donc ça peut amener d'autres complications là, du fait que les aliments peuvent descendre trop rapidement dans l'intestin aussi. Après ça, on a les dérivations bilio-pancréatiques. Donc, il y a deux types principaux, la SADI de son petit nom, qui est SADI S, son plus long nom, mais dans le fond, SADI, c'est un acronyme pour dire qu'il y a juste une anastomose, donc il y a juste une place que les intestins sont reconnectés en fait. Puis le BPD, qui est la dérivation plus classique, là, bilio-pancréatique, qui a deux anastomoses.
OK, fait qu'en français, mettons.
Français, mettons. Ben, t'as deux dérivations bilio-pancréatiques, puis les deux, dans le fond, leur principale différence, ça va être la façon qu'ils vont venir changer les intestins de place, là. Donc, les
Ça fait
deux,
que
c'est...
là,
Oui.
dans le fond, c'est plus un bout de l'intestin qui a été retiré, donc il y a de la malabsorption dans ce contexte-là, c'est ça?
Mais ouais, il n'y a rien de retiré. Je comprends là, un peu pourquoi c'est confondant, mais dans le fond, on va...
C'est reconnecté.
Ouais, on va reconnecter l'estomac plus loin, mais on n'enlève pas le bout. Dans le fond, c'est juste que les aliments vont glisser plus loin dans le tube de l'intestin, mais le reste du tube est encore là.
Il reste là, mais il reste comme il sert à rien en fait.
Mais en fait, c'est que les enzymes pancréatiques qui passent par
Ils vont
là,
couler par là.
ils vont couler par là. Donc souvent, on va parler d'une... Ben, dans le Y de roue, là, c'est ça, là, en fait. Mais dans le bypass, c'est que les enzymes bio-pancréatiques arrivent dans une anse, puis l'autre anse, c'est les aliments, puis ça se rejoint plus loin au lieu de se rejoindre direct à la sortie de l'estomac.
OK. Fait que
Mais
ça
dans la
permet
dérivation...
de... Excuse-moi, ouais. Qu'est-ce qui fait que ça permet de perdre du poids? C'est l'absorption, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ces chirurgies-là amènent en plus de la restriction, vont amener de la malabsorption. Le bypass, un peu moins. La dérivation bio-pancréatique, beaucoup plus de malabsorption parce que l'anse commune est vraiment plus petite. L'anse commune entre les enzymes pancréatiques et les aliments. Là, donc, le chemin qu'ils vont faire les deux ensemble est plus petit. Donc, il y a moins d'absorption. Puis, dans le fond... Si elle a une anastomose ou deux anastomoses, là, finalement, en gros, c'est vraiment... Je pense qu'il y en a une qui a encore plus de malabsorption. Puis là, c'est les plus qu'il y a des... Plus qu'il y a des coutures de fait, plus que les risques de chirurgie sont là aussi, là. Donc, de plus en plus populaire, celle avec juste une anastomose.
OK. Puis mettons là qu'on s'en va justement voir un médecin, qu'on a un rendez-vous justement pour la chirurgie bariatrique. Est-ce qu'il y a des choix qui nous sont offerts ou genre dépendamment de la place où on va ou dépendamment de certains critères ou dépendamment de notre médecin, on va être automatiquement dirigé vers une option?
C'est une bonne question. Dans le fond, principalement, c'est le médecin de famille qui doit référer la personne à un centre qui fait de la chirurgie bariatrique. Puis là, ben, quand la personne a sa requête, elle peut l'envoyer à un centre ou elle peut l'envoyer dans 10 centres en ce moment au Québec. Donc, c'est un peu la personne qui décide où est-ce qu'elle envoie sa demande. Il y en a qui l'envoient à 10 en même temps, puis d'autres qui l'envoient juste à celui le plus proche de chez eux, par exemple. Donc là, les centres, ben oui, l'offre varie. Donc, il y a des centres qui vont offrir juste la sleeve, juste la gastrectomie verticale. Donc, d'autres vont offrir la sleeve et le bypass. Puis d'autres vont offrir les trois, là. Donc, la sleeve, le bypass ou une dérivation. Donc, oui, l'offre va varier. Mais c'est sûr que le chirurgien qui reçoit le patient, puis le chirurgien qui a juste la sleeve, s'il pense que la personne devant lui bénéficierait d'un bypass, c'est sûr, j'espère qu'il va lui dire, puis le référer à un autre centre. Mais de plus en plus, les centres vont offrir les deux. Mais la sleeve, souvent, dans les dernières années, on a vu plusieurs centres ouvrir pour les sleeves. Puis là, je pense que Avec les années qui passent, ils commencent à offrir aussi le bypass.
Puis qu'est-ce qui ferait justement que la personne pourrait bénéficier d'un bypass? C'est qu'en fait, il y a comme plus de résultats. Y a-t-il plus de résultats vu que ça combine justement la restriction et la malabsorption?
Oui, donc la perte de poids va être un peu plus importante, mais le principal avantage, c'est si la personne est diabétique.
OK.
Donc, avec un bypass, le jour 1, dans les heures qui suivent la chirurgie, on peut déjà beaucoup, beaucoup diminuer la médication pour le diabète. Donc,
OK.
c'est vraiment pas juste relié à la perte de poids, mais vraiment au changement métabolique qui amène le bypass.
OK,
Donc, c'est pour
intéressant.
ça que si il y a un diabète vraiment avec beaucoup de doses d'insuline ou des glycémies qui sont difficiles à ramener dans les cibles, ben, le bypass va être plus indiqué dans ce cas-là.
OK, très intéressant. Puis, je sais que, tu sais, c'est pas n'importe qui, justement, qui peut se présenter puis dire, bon, ben moi, j'ai une chirurgie demain. Il y a certains critères d'admissibilité. J'ai envie que tu nous présentes les critères d'admissibilité. Puis là, il y a comme une question qui me pop un peu en tête parce que tantôt, tu parlais du privé puis tout, mais est-ce qu'au privé, on peut un peu bypasser, justement, ces critères d'admissibilité-là ou ça reste comme la base si t'as pas ça, t'as pas de chirurgie d'attitude parce que le privé, des fois, on peut passer outre bien des affaires, là. Quand t'as de l'argent, tu peux avoir bien des choses. Fait que c'est quoi les critères? Puis au privé, est-ce qu'ils sont toujours de mise ou au privé, peu importe.
Non, dans le fond, même au privé, ça, c'est les mêmes critères, là. C'est vraiment des
OK.
critères de médecine, là. Je dirais,
Ouais.
c'est le collège des médecins aussi qui les a approuvés. Donc, je pense que c'est
Bonne
vraiment
chose.
une bonne pratique de la médecine, là.
Ah
Donc,
ouais, c'est ça.
si au privé, ils bypassent ça, c'est une mauvaise pratique de la médecine en tant que telle. Donc, je pense pas que ce soit bypassé tant que ça. Donc, dans le fond, les critères, tant qu'être dans la controverse, sont basés sur l'IMC, donc l'indice de masse corporelle qui est très l'indice de masse corporelle qui est très controversé aussi ces temps-ci. Donc malheureusement, ben c'est encore basé là-dessus là, pour l'instant. Donc ça prend un IMC en haut de 40.
Est-ce que tu sais si c'est en révision, ça? Y a-t-il des gens qui travaillent là-dessus actuellement pour revoir ces critères-là? Ou...
Ben je sais qu'Obésité Canada ont fait un nouveau rapport en 2020, mais c'est encore basé là-dessus,
OK.
là, malgré les révisions. Ça reste quand même simple à utiliser, assez
Ah ouais.
accessible à tout le monde. C'est sûr que de passer un IRM, voir la quantité de masse graisseuse viscérale, ça serait plus intéressant, mais c'est pas abordable et accessible facilement.
Ça reste qu'avec des valeurs cibles hautes comme celle-là, effectivement, on peut s'imaginer qu'avec un IMC au-dessus de 40, tu as des affectations au niveau de la mobilité, au niveau de la santé, puis tout, là. Tu sais,
Exactement. Puis ça reste des critères d'admissibilité.
Ah
Donc,
ouais, c'est ça.
c'est pas
Une
que cet
évaluation.
âge-là que tu es opéré. Tu sais, il y aura quand même une autre évaluation à qui s'ensuit, mais des critères d'admissibilité pour que le chirurgien, voyons, le médecin de famille puisse envoyer même la requête puis que la requête soit recevable, c'est ça. Après ça, il y a d'autres critères, c'est sûr. Mais dans le fond, il faut être âgé entre 18 et 65 ans et avoir un IMC en haut de 40, là, tu es éligible, peu importe. Mais avec un IMC en haut de 35, là, dans le fond, tu peux être éligible si tu as d'autres conditions associées à un surplus de poids. Donc, par exemple, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'apnée du sommeil, la stéatose hépatique non alcoolique aussi. Donc, tu en as fait un podcast dans la saison 3. Donc, dans le fond, avec un IMC en 35, là, on demande d'avoir aussi au moins une condition associée là, pour être éligible. Puis, en IMC en haut de 30, ça pourrait être vu aussi si c'est un diabète qui répond vraiment pas au traitement médical, mais c'est la seule condition, là, entre 30 et 35 pour être éligible.
OK, intéressant. Puis, mettons, là, justement, qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet nous concernant, c'est-à-dire les recommandations nutritionnelles entourant la fameuse chirurgie. Je sais que les gens sont rencontrés avant l'opération. Dans bien des cas, il y a une diète liquide qui doit être faite pour entamer la perte de poids. Si, mettons, on sépare ça, là, comme un peu, qu'est-ce qu'ils doivent faire avant, ensuite, qu'est-ce qu'ils doivent faire après. Puis, j'aimerais que tu nous parles aussi, comme au privé, pas au privé, mais au public. Ben ouais, on pourrait peut-être parler des deux. Je ne sais pas si c'est au privé, mais actuellement, là, ça ressemble à quoi le pattern de rencontre des nutritionnistes? Y a-t-il comme un rendez-vous avant, puis là, on fait à peu près ça, puis un rendez-vous après, pas de rendez-vous après. Explique-nous un peu comment ça fonctionne là, en termes d'accompagnement nutritionnel.
Oui, dans le fond, c'est vraiment variable d'un centre à l'autre, malheureusement. Même la diète liquide dont tu viens de parler, dans le fond, oui, il y a une diète liquide à suivre. La plupart, là, la grande majorité des cas, il y en a une de 2 à 4 semaines à suivre. Puis la durée va dépendre de l'IMC de départ. Donc, plus l'IMC est élevé, plus on va aller vers le 3 à 4 semaines. Puis, dans le fond, il y a certains centres qui n'en ont pas non plus de diète liquide avant. Donc, je pense à l'IUCPQ, eux, c'est rare là qu'ils vont demander la diète liquide. Ils vont surtout demander de manger pas de friture, l'assiette équilibrée, pas de sucreries, pas de dessert pendant quelques semaines avant seulement, là. Donc, pas de diète liquide. Mais la grande majorité, oui. Donc, ça consiste en des shakes puis des légumes essentiellement. Mais tu as mentionné pour amorcer la perte de poids, mais en fait, la raison, c'est vraiment pour diminuer la taille du foie. Donc, c'est la seule raison. C'est vraiment parce que le foie, quand on prend du poids, le foie aussi grossit. Puis, le foie, quand il grossit, ben, il peut venir cacher l'estomac, il peut venir comme embarquer par-dessus l'estomac. Puis là, si là, on ne réduit pas la taille du foie avant la chirurgie, ben, le chirurgien, si le foie il est pas contournable, il a aucun accès à l'estomac, ben, il peut pas faire la chirurgie. Donc, c'est vraiment la raison de la diète liquide, c'est pour rapetisser le foie, pour permettre un champ plus libre, là, au chirurgien. Donc, c'est même pas pour une perte de poids, mais c'est sûr que ça vient avec.
Ah ouais, c'est clair. Ben, surtout quand on a un IMC plus élevé comme ça, des fois, ça va un peu plus vite. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça veut dire que le foie il est très réactif. Ça veut dire que la taille du foie a diminué très rapidement. Hein?
Oui,
C'est
dans le fond,
impressionnant, non?
c'est un régime autour de 1000 calories, 90 grammes de glucides environ. Fait que c'est même pas une restriction tant que ça. Ben oui, mais t'sais, faible en gras, faible en glucides, riche en protéines quand même, autour de 90 grammes de protéines, 1000 calories. Puis en 2 à 4 semaines, on réussit à libérer quand même le champ opératoire pour le chirurgien. Là.
OK. Puis toi, fait est-ce que toi où tu travailles, mettons, est-ce que systématiquement les gens avant la chirurgie vont te rencontrer?
Non. Donc, dans le fond, on a un cours de groupe avant la chirurgie. Puis souvent, ben, avant la pandémie, on allait systématiquement à tous les cours de groupe, répondre aux questions à la fin, parce que maintenant, c'était une vidéo de nous qui faisait. Parce qu'au lieu de répéter 2 fois par semaine, toutes les semaines, on avait fait une vidéo, mais à la fin, on allait répondre aux questions. Là, pendant la pandémie, c'était les infirmiers qui faisaient notre partie, mais tu sais, ils nous ont entendu répéter pendant 1000 fois
Non,
les mêmes
je
choses.
comprends.
C'était long.
Et
Mais
ça
là,
va plus
depuis que la pandémie est un peu derrière nous, on a recommencé à y aller tranquillement, leur répondre aux questions. Mais c'est vraiment en sous forme de cours de groupe. Mais pendant le cours de groupe, on a un questionnaire que les gens doivent répondre. Puis là, à partir du questionnaire, on sélectionne ceux qui bénéficieraient le plus de rencontrer en individuel la nutritionniste. Donc, on envoie une partie en individuel avant la chirurgie, mais c'est pas tout le monde, malheureusement. Puis je pense qu'il y a plusieurs centres que c'est ça, que c'est vraiment cours de groupe avant, puis aux besoins en individuel avant. Puis tout le monde pas mal voit en individuel après, par contre. Donc ça, c'est sûr. Mais tu sais, il y a d'autres centres qui vont être plus avant, moins après. Donc c'est vraiment variable en ce moment, là, les protocoles, là, les services. Donc, il va être surtout chirurgien, infirmier, nutritionniste, c'est pas mal standard, mais cours de groupe avant, pas toujours en individuel avant. Certains centres ont travailleur social ou psychologue aussi, kinésiologue, certains centres aussi, mais là, encore une fois, ça varie d'un centre à l'autre. Puis souvent, ça va être plus pour le après, un peu pour l'avant.
Puis pour le après, en fait, tu leur jases de quoi, tu sais, à ces gens-là? Est-ce que tu leur donnes vraiment des recommandations pour adapter leur alimentation sur le long terme? Est-ce que c'est plus focus sur, ben justement, voici comment ça va se passer comme dans les prochaines semaines? Je sais qu'il y a une progression. Est-ce que tu as l'opportunité, justement, de les accompagner un peu ou c'est comme un quick call, là, tu leur parles 2 fois puis au revoir?
Oui, donc encore là, c'est vraiment variable d'un centre à l'autre. Au privé, je sais que c'est souvent par appel, justement, un téléphone, puis c'est assez je sais pas si ça dure combien de temps, mais je sais que c'est un ou deux appels avant, puis un ou deux appels après, je pense. Mais au public, c'est vraiment variable d'un centre à l'autre encore. Mais dans mon centre, on les voit à 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis plus aux besoins. Donc, c'est sûr que si on juge qu'on a besoin de les voir plus serrés, on peut. Si on juge qu'on peut, on doit les revoir, on peut. Puis les chirurgiens nous réfèrent beaucoup aussi à moyen long terme. Des fois, ils m'envoient des requêtes de revoir quelqu'un qui a été opéré il y a 3, 4 ans, là.
Ah,
Donc,
c'est beau, ça va
moi,
être
je
aussi.
vois de tout, ouais. Mais sinon, pour la progression, oui, il y a une progression de la diète en post-opératoire, les 4 à 6 premières semaines, ça dépend des centres. Chez nous, c'est sur 4 semaines, il y a des centres, c'est sur 6 semaines. Donc, pendant cette progression-là, c'est plutôt détaillé dans le guide, dans la vidéo qu'ils ont dans le cours de groupe avant la chirurgie. Donc, il n'y a pas nécessairement d'accompagnement là, pendant ces semaines-là. C'est sûr qu'au besoin, ils nous appellent, puis on peut les aligner un peu avec un appel, là. Justement, ils nous appellent, là, j'ai telle contrainte, puis on peut les réaligner vite, vite. Mais on n'a pas d'accompagnement comme tel complet. C'est vraiment juste à 3 mois après qu'on les voit. Donc, c'est sûr que c'est un peu long. Et après ça, c'est à 6 mois, puis après ça, c'est à 1 an. Fait que c'est... Oui, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner par rapport à la chirurgie. Là, à 3 mois, ils sont encore enflés, ils ont encore la misère à manger et tout ça. Puis à 1 an, c'est... T'sais, moi, j'ai toujours le 6 mois puis 1 an en tête aussi. Puis à 1 an, c'est vraiment aussi des conseils pour le moyen-long terme qu'on leur donne. Donc, il y a un peu de tout. Puis au privé, ben, avec Nutrition Chi, ben là, j'ai la chance de pouvoir les accompagner des fois avant. Puis là, dans l'immédiat, souvent... Je les vois pendant leur progression. Donc, la progression, ça passe de liquide à purée, à mou. Après ça, ils mangent du solide. Donc, moi, en étant avec Nutrition Chi, ben, j'ai vu des gens là-dedans, puis j'ai pu les accompagner une fois par semaine au début, après ça aux 2 semaines, après ça au mois. Donc, l'accompagnement est vraiment différent que quand au public, je les vois aux 3, 6 mois,
Ben
là.
oui,
Donc,
c'est
ça, c'est
clair.
vraiment pas pareil. Mais c'est ça. C'est différent, mais on essaie quand même que les gens soient satisfaits des
Ben
rencontres en
oui, le plus
nutrition
possible,
quand
non,
même.
c'est clair. C'est clair. Puis c'est quand même controversé, la chirurgie bariatrique, pour différentes raisons. On pourrait peut-être parler des avantages et inconvénients parce qu'il y en a plusieurs qui. À tort, tu sais, voient ça un peu comme la pilule magique ou bien comme si c'était l'option qui était facile puis tout, mais tu sais, vraiment pas, là, dans le sens que dans certains cas, ben, premièrement, on sait que la perte de poids, c'est vraiment pas comme, c'est vraiment pas bouger plus puis manger moins, là, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire, fait que c'est pas donné à tous, puis des fois, ben, ça a des réels effets sur le quotidien. Fait que tu pourrais-tu me partager un peu c'est quoi les risques et les bénéfices des chirurgies?
Oui, mais dans le fond, je suis pas chirurgienne, non, mais c'est sûr qu'il y a les risques de la chirurgie en tant que telle. Donc, comme n'importe quelle chirurgie, il y a des risques de saignement, des risques d'infection, des risques de retourner sur la table d'opération, les risques de faire une complication thromboembolique. Mais sinon, plus relié à la chirurgie bariatrique, c'est vraiment, ben, la sleeve va amener des risques de reflux. Donc, on peut faire, quelqu'un qui faisait pas de reflux avant la chirurgie peut maintenant faire après la chirurgie. Donc, ça, c'est un risque. Sinon, ça peut être des fuites au niveau de où est-ce qu'il y a eu des coupures internes. Donc, où est-ce qu'on a coupé l'estomac, si ça se met à fuir dans les médias après la chirurgie, ça va amener des complications. Une fuite au niveau des dérivations. Donc, que ce soit le bypass ou dans les dérivations biliopancréatiques, ça peut être une fuite au niveau de l'intestin qui a été rabouté. Ça peut amener des péritonites, donc une infection de l'abdomen. Il peut y avoir un rétrécissement de l'estomac. Donc, dans le fond, pendant qu'elle guérit l'estomac, des fois, elle va venir faire une sténose, là. C'est vraiment un terme médical, mais c'est comme ça va rétrécir au lieu de rester comme la taille que le chirurgien lui avait donnée. Ça peut... Dans les complications, ils ont mis agrandissement de l'estomac, donc on se posait la question tantôt. C'est dans la liste des complications possibles. Syndrome de chasse gastrique ou dumping en anglais, c'est vraiment plus connu sous son petit nom en anglais, dumping. Ça va être vraiment plus avec le bypass ou les... principalement avec le bypass, mais il peut en avoir avec les autres types de chirurgie aussi.
Peut-être expliquer en fait aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est.
Ouais. Mais dans le fond, le dumping ou le syndrome de chasse gastrique, c'est vraiment... Il y a deux formes, même la forme la plus classique, c'est vraiment, ben, on va courir aux toilettes parce que ça descend trop vite. Dans le fond, là, le syndrome de chasse gastrique, ça le dit bien dans le mot, mais c'est vraiment, quelque chose qui passe pas, qui descend, qui va vouloir ressortir illico presto.
Bonne
Mais,
diarrhée, là.
ouais, mais tu sais, comme instantané avec ce que tu vas avoir mangé. Donc, tu sais, c'est souvent trop sucré, trop gras, quelque chose de trop froid, trop chaud, trop salé, si c'est pas assez mastiqué aussi, donc on se rappelle le bypass comme plus un entonnoir, il n'y a rien qui retient les aliments dans l'estomac. Donc, si on mastique pas assez, puis que ça passe pas assez de temps dans l'estomac, dans l'acidité, ben s'il arrive un gros morceau de carotte dans l'intestin, ben l'intestin il est pas fait pour digérer des gros morceaux, donc il va faire c'est quoi ça, puis il va l'envoyer là direct, faut que ça sorte, je sais pas c'est quoi. Mais donc ça c'est la forme classique de dumping, mais il y a aussi la forme tardive de une hypoglycémie réactionnelle en fait comme réaction. Donc c'est 1 heure ou 2 après le repas, les gens vont sentir comme un peu faible, là, gros coup de fatigue, le shake des fois. Donc vraiment une hypoglycémie, c'est vraiment pas parce qu'ils sont diabétiques, mais c'est vraiment juste parce que le corps a comme surréagi, parce que du fait qu'il n'y a pas de contrôle sur la sortie au niveau de l'estomac, des fois ça descend trop vite d'un coup, puis là ben, ça fait trop de sucre qui arrive d'un coup, puis là le corps réagit trop intense, là, puis
Ben oui, puis
ça
après,
monte vite, puis ça redescend trop.
voilà.
Donc, ça, c'est une autre forme de dumping. Mais sinon, si on revient aux complications possibles, bien, c'est sûr qu'il y a aussi dénutrition. Donc, quelqu'un qui mange vraiment pas assez ou qui fait pas les bons choix peut finir avec une dénutrition. Des carences en vitamines, une carence en protéines est possible aussi. Puis, en micronutriments, là, je pense aux oligo-éléments aussi, là. Donc, dans les multivitamines, on choisit celles qu'il y en a parce que il peut y avoir des carences aussi là-dedans. Puis les diarrhées malodorantes, là, dans le cas des dérivations, là, c'est fréquent aussi.
Puis dirais-tu aussi qu'il y a comme un risque psychologique qui est associé à la chirurgie?
Oui, vraiment. Donc, c'est bon que tu en parles parce que souvent, les chirurgiens, justement, c'est la liste des conséquences que j'ai nommées, c'est les chirurgiens, tu sais, qui vont la dire, mais ils vont souvent pas nécessairement en parler, là, des conséquences psychologiques. Mais de plus en plus, on en parle, puis je pense que c'est important qu'on en parle. Donc oui, il peut y avoir aussi des complications au niveau psychologique, parce que on le voit dans la littérature qu'il y a plus de... Le taux de suicide est plus important après une chirurgie bariatrique. Par contre, là, dans les études que j'ai fouillées, ils peuvent pas nécessairement l'expliquer. Donc là, pour l'instant, c'est juste un constat. Mais tu sais, il y a plusieurs hypothèses, là, mais c'est sûr que ça reste un constat, là, qu'il y a plus de taux de suicide. Le taux de suicide est plus important après, donc c'est sûr que ça prend en compte. Plus de problèmes d'alcool aussi. On parle beaucoup de transfert de dépendance, mais pour l'instant, dans la littérature, on n'a pas là-dessus. C'est vraiment plus anecdotique pour l'instant, mais tous les professionnels qui ont travaillé avec des cas de chirurgie bariatrique vont pouvoir en avoir en tête un cas, là. Donc c'est juste pas étudié encore, mais tu sais, transfert de dépendance, dans le fond, c'est que les gens étaient probablement dépendants à la nourriture pour gérer leurs émotions, leur stress, sans le savoir. Puis après la chirurgie, n'ayant pas ça comme échappatoire, ben ils vont se tourner vers l'alcool, vers l'achat compulsif en ligne, le jeu, peu importe.
OK. Puis, ça m'amène à te poser une question. Est-ce qu'il y a un genre de dépistage de troubles alimentaires qui est fait en amont? Tu sais, parce que j'aurais en tête quelqu'un qui est hyperphagique. Là, t'es opéré. Tu sais, l'hyperphagie, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Puis d'ailleurs, j'ai eu un client, c'est pas pour rien que je t'en parle, j'ai eu un client comme ça, post-chirurgie, je lui parle. Puis, tu sais, là, finalement, moi, je suis comme, hé, là, là, il a l'air vraiment de cadrer comme pour hyperphagie. Puis il était justement, il me semblait vraiment psychologiquement affecté, là, vraiment pas bien, là. Fait qu'est-ce que c'est quelque chose qui est considéré un peu ou plus ou moins?
Oui, en fait, c'est ça. On a parlé beaucoup des indications tantôt là, à la chirurgie, donc les critères d'admissibilité. Mais dans le fond,
Contre-indication, ouais.
après ça, quand on regarde de plus près les dossiers, c'est sûr qu'il y a des contre-indications aussi qu'on va regarder. Puis ça prend vraiment une santé mentale stable là, pour être admis. Donc s'il y a une dépression en cours, on va pas opérer. Donc si il est encore en ajustement pour une maladie bipolaire ou un trouble de schizophrénie, on va attendre que ça soit bien contrôlé, bien ajusté. Souvent les chirurgiens vont même attendre 1 an de stabilité là, avant de penser à opérer. Donc si c'est sûr qu'il y a d'autres critères après qui entrent en ligne de compte. Les troubles alimentaires, oui, sont dépistés règle générale par la nutritionniste. Justement, nous, dans notre questionnaire préopératoire, il y a des questions de dépistage. Puis c'est sûr que si y a un trouble alimentaire actif, on n'est pas supposé opérer. Après ça, c'est sûr que nos dépistages, ça reste des questionnaires, là. Donc, si la personne a répondu non, puis que c'est oui la réponse, on peut pas le savoir. Mais oui, normalement, il y a un dépistage qui est fait. Puis, il y a beaucoup de sensibilité aussi par rapport à ça après l'opération. Donc, on le sait là, que le taux de suicide est plus important après. Donc, on fait beaucoup attention à ça. Dès que les gens ils nous semblent un peu affectés. Des fois, on va tout de suite poser des questions sur leur humeur, sur comment ils vont, puis rapidement, si ça va pas bien, on va. Si les infirmiers sont bien formés, puis ils vont pas même poser est-ce que vous avez un plan pour mettre à vos jours. Ils sont vraiment bien formés, puis on fait vraiment attention là, à tout ça. Mais c'est sûr que, pour répondre à ta question, c'est sûr que quelqu'un qui aurait un trouble alimentaire hyperphagique en cours, on l'opérerait pas non, nécessairement. Mais encore là, c'est dans les contre-indications relatives, je te dirais, c'est pas nécessairement une contre-indication absolue. Mais en règle générale, souvent, on va pas opérer si c'est actif. Mais est-ce que si c'est bien, si ça fait 3 ou 6 mois qu'il n'y a pas eu de crise, ben là, oui.
Non, je
Bon, il va
comprends.
pas être éliminé à vide parce qu'il y a eu de l'hyperphagie. Mais c'est sûr que pour certains, ça peut même venir les aider, là, d'avoir la chirurgie bariatrique. C'est pour ça que c'est pas nécessairement une contre-indication
En tout cas, pas encore.
absolue.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
OK. Puis ça serait quoi les bénéfices de la chirurgie?
Ben c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait, sinon on
Ah,
n'opérerait
ben
pas. Donc, on c'est toujours en blague, si y en avait pas, tu sais, s'il y avait juste des effets secondaires, on n'opérerait plus, là. Il y en a toujours. Donc, faut que les bénéfices pour la personne soient plus grands que les risques. Donc, c'est
oui.
sûr que c'est pas nécessairement pour tout le monde. T'sais, on disait que c'est controversé, mais en même temps, on force personne à l'avoir, la chirurgie. Donc, c'est à chaque personne de décider si elle voit plus de bénéfices que de risques à aller par la chirurgie. Mais, c'est sûr que principalement, on essaie de viser une amélioration de la qualité de vie. Donc, que la personne soit moins essoufflée à mettre ses souliers, qu'elle soit aussi capable de plus facilement d'embarquer dans sa voiture, s'attacher. Ça, c'est des petites choses que nous, on fait au quotidien sans s'en rendre compte, mais que pour eux, c'est toujours. Tu sais, j'en ai encore une cliente cette semaine qui me dit qu'elle a dû changer de voiture parce qu'elle n'était plus capable de rentrer dans sa voiture. T'sais. Donc, c'est vraiment pour eux des choses pas anodines pour eux, là. Donc, pour eux, ça change tout. Donc, vraiment, au quotidien, là, même se laver, il y en a qui ont de la misère, là, à la fin, de se laver dans le dos, partout
Ah
comme
oui,
il
c'est
faut,
clair.
tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment les gestes au quotidien, là, activités domestiques aussi, faire son ménage, son lavage, ça devient plus facile. Souvent, dans leur motivation, ça va être de pouvoir s'asseoir par terre puis jouer avec leurs enfants. Donc, ça aussi, j'en ai une cliente qui c'était touchant. Elle me disait, ma fille, que la première fois que je me suis assise par terre pour jouer avec elle, elle avait 7 ans, puis elle est partie à pleurer, puis elle me dit, maman, t'es assise avec moi pour jouer à terre. C'est parce qu'elle avait eu la chirurgie, qu'elle avait perdu beaucoup de poids, puis qu'elle était capable maintenant. Donc, tu sais, c'est vraiment touchant quand on voit les impacts comme ça dans leur vie. Puis, ben, c'est sûr que principalement, c'est pour améliorer leur santé. Là. Leur motivation première, c'est toujours d'améliorer leur santé. Donc, diminuer les médicaments, prendre moins de médicaments pour l'hypertension, prendre moins de médicaments pour le cholestérol. Souvent, on va même être capable de les cesser. Là, ça dépend toujours de chaque personne, mais ça arrive quand même fréquemment qu'ils peuvent les cesser complètement. Le diabète, même chose. Donc, même l'apnée du sommeil, certaines personnes, à la fin de la perte de poids, repassent le test, puis ils n'en font plus, puis ils peuvent arrêter de porter leur machine. Donc, c'est vraiment une amélioration de la santé globale qui est là. Puis, dans les études, on voit qu'il y a aussi une amélioration de leur espérance de vie, puis surtout le nombre d'années en santé, là. Donc, on parle d'espérance de vie, mais la qualité de vie aussi, là. Donc, ça améliore, ça prolonge leur vie, puis la prolonge leur vie en santé aussi.
Puis je pense qu'une des inquiétudes par rapport à la chirurgie dont on n'a pas discuté, c'est la fameuse reprise de poids. Je l'avais pas mis dans les questions que je souhaitais te poser, mais là, en discutant, je suis comme, tu sais, je sais qu'il y a quand même des bonnes proportions de personnes qui vont, tu sais, perdre du poids beaucoup, puis après, des fois, ça tend à remonter. Est-ce que tu as des chiffres par rapport à ça, ou est-ce que toi, globalement, tu as en tête, mettons, tu sais, même si ce n'est pas des données scientifiques, là, est-ce que tu as l'impression que c'est genre, tu sais, 5% ou 50% des gens qui reprennent le poids? Est-ce que tu as des données par
Ouais.
rapport à ça?
Ben oui, il y a beaucoup de chiffres, là, donc tu sais, j'y vais un peu de mémoire, mais encore hier, j'en regardais là, pour peut-être répondre à cette question-là, justement, mais c'est à 2 ans puis 5 ans, ça va varier entre 25 puis 35 % des gens qui vont avoir repris 15 % et plus de ce qu'ils ont perdu. Donc, pas nécessairement tout
Ouais.
repris, mais si
Mais
on perd
certains
100
prix, c'est
livres,
l'argent.
ben ouais, c'est ça. Fait que tu sais, s'ils avaient perdu 100 livres, ils avaient repris plus que 15 livres. Donc, c'est à 35 % seulement des gens qui sont dans ça. Fait que, oui, c'est large, 15 % et plus, mais c'est quand même juste 25 à 35 % des gens qui s'y retrouvent. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui reprend. Puis j'avais aussi déjà entendu la statistique de ça, à peu près 20-25% des gens qui, au bout de 5-10 ans, vont avoir tout repris. Donc, c'est quand même la grande majorité vont pas tout reprendre leur poids, là.
Puis es-tu en mesure de voir un peu un pattern par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui s'imaginent un peu peut-être à tort à cause de tout ce qu'on entend au sujet de la grossophobie, puis la grossophobie internalisée, puis tout, que les personnes qui se rendent là à la chirurgie bariatrique, ben c'est des personnes qui mangent vraiment pas bien, qui sont toujours dans la malbouffe, puis tout, alors que toi et moi, on sait que c'est pas le cas, t'sais. Puis est-ce que tu vois un pattern justement de. Par exemple, les gens qui tendent, ben, de ce que tu observes, encore une fois, je te demande pas de données scientifiques, là, de, t'sais, les gens qui ont tendance à reprendre plus de poids, c'est peut-être des gens qui, avant la chirurgie, avaient des relations plus difficiles avec la nourriture ou avaient des habitudes qui étaient moins saines ou pas nécessairement.
C'est sûr qu'il y a tellement, tous les parcours sont tellement différents, et puis il y a tellement mille raisons de pourquoi on prend du poids, donc c'est des fois c'est difficile de tirer, de mettre tout le monde dans le même panier si on veut, mais oui, il y a quand même des patterns. C'est sûr que plus les changements d'habitude de vie sont faits avant la chirurgie, moins les gens vont reprendre. Donc c'est sûr que quelqu'un qui au moment de la chirurgie avait pratiquement rien changé de ses habitudes, puis oui, t'as tellement raison que c'est pas vrai que tout le monde mange mal et bouge pas avant la chirurgie. Donc, il y en a qui mangent super bien, ils bougent beaucoup, puis le poids descend pas, puis ils vont vers la chirurgie. Mais oui, on en a aussi une proportion de gens qui mangeaient du fast-food 4 fois semaine, qui étaient complètement sédentaires, puis là, qui avait comme rien entamé comme changement d'habitude de vie avant la chirurgie. Ben oui, c'est sûr que ces gens-là, souvent, ils vont perdre moins, puis ils vont être plus à risque de reprendre. Est-ce que tout le monde, c'est le cas? Non, mais c'est
Non.
sûr que oui, là, il y a un pattern. Ceux qui ont fait plus de régime aussi, tu sais, le fameux yo-yo, là, donc des fois, ça fait des gens qui perdent moins, qui reprennent plus un petit peu. Plus qu'ils ont l'âge avancé aussi, tu sais, je pense à la ménopause chez la femme, là, ça va des fois amener une petite résistance à la perte de poids aussi, mais encore là. J'ai aussi une réussite de faire ménopauser. Donc, il y a pas de variable, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Et c'est tellement dépendant de tout ce qui arrive dans leur vie. Donc, souvent, les gens qui ont repris, ils sont capables souvent de nommer des choses qui sont arrivées. Ah, je me suis séparée. Ah, je suis âgée, puis dans mon nouveau quartier, c'est pas propice à ce que j'aille marcher. Ou j'ai fait une dépression, j'ai commencé un nouveau médicament, j'ai pris 20 livres là, t'sais. Et c'est la vie continue même après la chirurgie. Donc,
Ouais, effectivement.
il arrive mille choses pour qu'ils arrivent à ce poids-là. Puis après, ben, il va encore arriver mille choses pour pouvoir les faire prendre du poids. Donc, c'est sûr que c'est pas miracle. Puis c'est sûr que la vie continue. Mais c'est ça. C'est pas nécessairement de leur faute non plus, là, pourquoi les gens. Bon, je sais que c'est pas ce que tu dis, mais tu sais, c'est tellement. Moi, je connais quelqu'un qui a eu la chirurgie, puis elle a tout repris le poids, je l'ai vu qu'elle a mangé telle affaire.
Ah, oh, ouais, non, c'est ça. L'alimentation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. C'est pas de la
Ouais.
volonté, on
Non,
le
c'est
sait. OK. Puis, ça serait quoi les principaux défis des clients en post-chirurgie, tu sais, que tu vois dans ton bureau? C'est quoi leur challenge, tu justement, de comme, tu sais, tantôt, tu disais, on leur demande de pas boire d'eau en mangeant, puis souvent, tu sais, au fil du temps, ça finit par revenir. Donc, tu sais, je sais que des fois, il y a l'enjeu de la protéine, de, tu sais, de construire les assiettes adéquatement. C'est quoi que tu vois, toi, comme étant les enjeux, les challenges de tes clients en post-chirurgie?
Oui, il y en a plusieurs, mais c'est sûr que ce que je vois le plus là dans leur défi, c'est vraiment ben, l'image corporelle. Ça reste un défi d'accepter son corps parce que des fois, il y en a qui misaient là-dessus pour ça va aller mieux après la chirurgie, tu sais, pas nécessairement. Donc, l'image corporelle est pas nécessairement mieux. Il y a le surplus de peau, il y a le fait qu'ils sont souvent encore en surplus de poids, donc on n'a pas parlé là, des attentes de perte de poids avec les chirurgies, mais on vise jamais un retour à un poids de l'IMC de 25 qu'on ne veut pas parler de l'IMC, mais tu sais,
Non, je
ils perdent pas 100% de leur surplus de poids en gros, là.
Non, je
Donc,
comprends. Ouais.
ils demeurent avec un surplus de poids. Donc, des fois, les attentes étaient pas nécessairement réalistes. Donc, ça, mais c'est sûr que d'apprendre à se faire confiance aussi, ils ont tellement fait de diète, ils ont tout essayé. Puis nous, on arrive aussi avec d'autres recommandations, donc ils sont tout mêlés. Donc souvent, c'est tout mêlé, puis dès qu'ils apprennent à se faire confiance là-dedans, qui apprennent à faire confiance en leur choix alimentaire, qui apprennent aussi à faire confiance en leurs signaux de faim, de satiété. Donc, c'est vraiment, ils réapprennent à écouter leur faim, leur satiété aussi. Puis même ceux qui avaient une satiété avant la chirurgie, même ceux qui étaient bons pour avoir écouter leur faim, leur satiété avant la chirurgie, mais souvent ça change après la chirurgie. Donc, faut qu'ils réapprennent. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire confiance en leurs signaux. Mais aussi,
D'ailleurs,
ouais.
c'est, je veux dire, ça, la chirurgie va pas aller affecter les signaux corporels. T'sais, des fois, il y a certaines choses qui peuvent venir un peu brouiller les cartes. Là, dans le fond, c'est réaliste de croire qu'on peut, en post-chirurgie bariatrique, avoir des signaux corporels fiables, mettons.
En post-op immédiat, non.
Ouais.
Donc, l'estomac est enflé, puis on vient jouer sur l'hormone de faim. Donc, clairement qu'on peut pas, parce que justement, avec la sleeve, on vient enlever la partie de l'estomac qui avait les cellules qui sécrétaient la ghrelin, l'hormone de faim. Donc, ils ont beaucoup moins faim. Donc, non, on peut pas attendre d'avoir faim pour manger. Puis, même chose, mais oui, il faut qu'ils écoutent leur satiété, par exemple. Donc, l'estomac dit c'est assez, mais la faim, ils vont la ressentir autrement au début. Donc, en absence de ghrelin, en absence de l'hormone de la faim, les gens deviennent vraiment bons pour sentir les baisses d'énergie. Donc, ils vont sentir la baisse d'énergie, un peu comme s'ils sentaient leur glycémie descendre, là. Et ce que nous, on perçoit pas nécessairement, eux, devient bon pour la percevoir. Un mal de tête, ils vont dire, ah oui, je pense que ça fait trop longtemps que j'ai mangé. Tu sais, ils vont avoir des symptômes plus physiques de ça, mais la faim va revenir. Donc, après un an et demi, les cellules qui sécrètent la ghrelin réapparaissent dans le fond de l'estomac, la faim revient. Donc, oui, éventuellement, après un an et demi, la faim normale revient, puis là, ils peuvent réapprendre aussi à vivre, à écouter cette faim-là, puis à y répondre. Donc, c'est sûr que les signaux sont brouillés les premières semaines, premiers mois, mais on essaie toujours de les amener là. Donc, nous, c'est toujours notre but, c'est toujours qu'ils réapprennent à écouter la faim, leur estomac, la faim de la satiété. Donc, oui, c'est quand même réaliste de penser. C'est juste, c'est différent qu'avec quelqu'un qui n'aura pas la chirurgie, là, au début,
C'est
là.
sûr.
Mais c'est sûr qu'on va pas leur demander d'attendre d'avoir faim pour manger au début, là, évidemment. Mais ouais, c'est réaliste quand même. Puis, c'est ça, ils deviennent super bons. Ils font leur propre essai-erreur avec leur estomac, puis ils deviennent des experts de leur estomac à eux. Donc, c'est
Absolument.
vraiment variable des fois ce qui va être toléré d'une personne à l'autre. Mais un autre gros défi, c'est vraiment la gestion des émotions, là. On en a parlé un peu tantôt. Si ça peut être réglé même avant la chirurgie, ça serait bon. Mais des fois, on ne sait pas qu'on a ce problème-là non plus avant. Puis là, après la chirurgie, ça pop. Mais tu sais, c'est vraiment d'être capable de gérer sans avoir besoin de la nourriture. Parce que oui, la nourriture, c'est un moyen efficace. Puis oui, ça, on dit pas de pas le faire nécessairement. Mais après la chirurgie, des fois, c'est plus compliqué. Si c'est pas efficace comme moyen, ben il va falloir qu'il y en ait d'autres. Puis c'est là que ça peut devenir challengeant pour eux. Mais c'est sûr que de pas boire au repas, il y en a qui s'ennuient de leur petit verre de
Ben ouais, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que aussi il n'y aurait pas le deuil? Ben, l'alcool, dans le fond, on n'a pas tant parlé, mais je pense que ils peuvent pas en consommer tant que ça, là, en
vin au
prochain.
repas. Non, mais c'est les 6 premiers mois, on les conseille parce que l'estomac est encore en train de guérir. Après ça, on va conseiller de ne pas dépasser 2 consommations par semaine parce que c'est vraiment flagrant le lien, là, mais dès qu'ils vont prendre plus que 2 consommations par semaine, on voit vraiment le poids qui aurait augmenté ou le qui arrête de descendre s'ils sont encore en perte de poids, là, mais le poids va vraiment diminuer là, sa descente ou réaugmenter là, au-delà de 2 consommations par semaine. Puis une des raisons aussi qu'on limite l'alcool, c'est parce que leur tolérance à l'alcool est vraiment moindre.
Ah,
Donc,
c'est
avec moins d'estomac, ben il y a moins d'enzymes qui digèrent l'alcool. Le taux d'alcool dans le sang monte vraiment plus vite. Donc, une consommation peut équivaloir jusqu'à 5-6 consommations. Donc,
Ah,
tu peux
ouais.
prendre juste une consommation dans un 5 à 7, puis tu n'es même plus capable de chauffer. Là, tu peux pas prendre le volant. Donc, ça aussi, ça peut aussi expliquer les problèmes d'alcool qui se développent, puis aussi le pourquoi qu'ils en prennent beaucoup moins souvent après la chirurgie. Mais, tu sais, c'est ça. Il y en a qui font quand même des petits deuils, là, de prendre un verre de vin avec un bon repas, parce que Là, tu peux avant ou après, mais là, avant, t'es à jeun, fait que ça passe pas super bien. Puis là, après, t'es comme pleine, faut t'attendre. Puis là, quand toi, t'as l'estomac, il y a de la place pour le vin, ben tout le monde est rendu plus loin, puis il y a plus personne qui est sur son vin, là, fait que t'es comme décalé avec les autres. Donc ça, c'est des fois, il y en a qui trouvent ça plus difficile, mais c'est vraiment...
On parle du vin, mais il y a certains aliments aussi, là. Tu sais, moi, des fois, j'ai des clients qui me disent, oublie ça, je peux plus manger de frites, mettons, tu sais, quand c'est gras, justement. On parlait tantôt du syndrome de la chasse gastrique, mais tu sais, quelque chose qui serait très gras ou très sucré, des fois, ça passe plus du tout, là. Fait que si c'était un petit plaisir de la vie, des fois, ça fonctionne juste pas. Fait que tant qu'à se rendre malade, faut un peu mettre ça de côté, là. Fait que je pense que ça doit être certainement un petit défi, là, pour eux.
Oui, effectivement. Mais souvent, les gens, ils vont me dire, ben, ça me rend malade, donc j'ai plus de
Ouais.
plaisir.
Ouais, non,
Mais c'est sûr qu'il y en a que oui. Puis il y en a qui vont pousser la note dans le sens qu'ils aiment tellement ça qu'ils vont en manger
vraiment
même quand ils sont malades. C'est pas super bon faire ça. Je déconseille, mais il y en a qui le font. Donc ça aussi, c'est un peu triste parce qu'ils sont malades à chaque fois. Mais sinon, c'est sûr que, tu sais, tu m'avais demandé une anecdote un peu moins positive
Ben
aussi.
on s'en allait vers ça, effectivement. On peut
Ouais,
conclure avec ça. Une
c'est ça.
anecdote moins intéressante, puis une anecdote positive.
C'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Il y en a qui font aussi le deuil de l'abondance. Donc, d'avoir une bonne assiette remplie puis de pouvoir manger abondamment, il y en a qui ça les rentre dedans là, dans les semaines après. Je pense à une cliente justement qui elle aimait ça cuisiner pour toute sa famille, ses parents, ses enfants, ses petits-enfants. Elle pouvait passer la journée à cuisiner, puis là, elle se rendait compte qu'elle avait passé sa journée à cuisiner pour pratiquement rien manger avec eux. Donc, elle, ça l'avait vraiment affecté beaucoup les premiers. Quand j'y avais parlé, c'était les premiers mois, donc les portions sont encore plus restreintes, là, donc c'est ça. C'était vraiment pour elle très, très dur sur le moral. Mais tu sais, sans être dans aussi, elle, ça l'atteignait vraiment beaucoup, là, mais sans les atteindre autant intensément qu'elle, il y en a beaucoup qui m'en parlent. Ça a été vraiment dur pour moi de m'adapter aux petites portions, mais là, ça va. Tu sais, il y a comme une période difficile. Il y en a qui ont encore les réflexes de se servir une grande assiette, même s'ils n'ont pas de misère à arrêter quand ils sont pleins. Ils ont comme encore le réflexe, même des mois et des années plus tard, à se faire des grandes assiettes.
Non, je comprends, c'est clair. Des fois, tu sais, même dans notre quotidien, là, moi, je me souviens, avant d'être enceinte, avant d'avoir des enfants, des fois, je disais à la blague comme, hey, j'ai tellement hâte de pouvoir être enceinte pour pouvoir manger comme vraiment beaucoup puis avoir vraiment faim. C'est plate quand ça a l'air full bon, puis tu manges un peu puis t'as déjà plus faim, comme. Mais finalement,
C'est
je pense que
ça.
j'avais pas si faim que ça enceinte. C'est un
Non,
peu.
enfin, finalement, on
On
est
a
resté
mal au cœur.
beaucoup.
Non, j'avais vraiment overrated ça. OK, puis est-ce qu'on. Ben, tu nous en as déjà conté une, mais je ne sais pas si tu en avais une deuxième. On pourrait terminer sur une note positive, peut-être, de conclure avec une petite anecdote positive que tu aurais pour nous.
Oui, ben, j'ai plusieurs clientes qui me mentionnent là, de pouvoir enfin se gâter sans culpabilité, prendre le temps de savourer, puis vraiment apprécier les petites gâteries sans culpabilité. Puis ça, c'est tellement comme gratifiant, puis je suis tellement contente puis heureuse pour elle parce que on sait, je dis pour elle parce que c'est les deux clientes que j'ai en tête, c'était des femmes, mais tu sais, on sait par tout ce qu'ils ont passé dans leur vie, les diètes de yo-yo, puis tout ça, puis les restrictions qui se sont imposées pour essayer de perdre du poids dans le passé. Donc quand ils me disent qu'ils peuvent enfin se gâter, puis de le savourer, puis de pas se sentir coupable après, moi, je suis vraiment contente puis heureuse. Fait que ça, c'est vraiment mon anecdote plus positive.
Vraiment. Eh ben merci beaucoup, Laurie. C'était vraiment cool de te recevoir. C'était super intéressant. Je pense que ça va pouvoir éclairer plusieurs personnes sur le sujet. Donc, est-ce que tu as des plateformes sociales? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver? Là, on disait justement que tu étais avec Nutrice en Chichi, mais sinon, si on veut en savoir davantage, on te contacte comment?
Ben moi je suis vraiment avec NutriSanchi, on a leur page Facebook, on a notre site internet aussi, donc je suis dans l'équipe sur le site internet. J'ai ma page Facebook mais pas très active honnêtement. Je fais juste repartager ce que NutriSanchi veut faire. Je fais les posts plus pour NutriSanchi, donc des fois ça va être marqué c'est Laurie, bla bla. Donc c'est vraiment via NutriSanchi là que vous pouvez me contacter.
Super. Hey, merci beaucoup.
Merci.
Bye-bye.
Bye bye.
Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!